d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec tous les spécialistes de toutes les émissions.
Et oui, et nous sommes le vendredi 12 février, c'est donc l'émission Mode d'emploi qui va revenir sur l'histoire, car en 2021, c'est l'anniversaire de la Commune de 1871, les 150 ans. Mais on va revenir un peu dans le passé encore, avec la révolution qui l'a précédée, celle de 1848, avec Ludo qui va intervenir et nous parler entre autres des événements et de la condition ouvrière, et Bob, le camarade Bob, qui va compléter un peu l'histoire. On parlera ensuite de la Commune avec Jean-Marc, et quelques chroniques d'actualité. Mais on attaque donc avec Ludo, à qui je laisse la parole pour nous parler de la révolution de 1848.
La révolution de 1848 fait partie de ces révolutions du 19e où le peuple parisien, toute classe confondue, peut encore jouer un rôle et tenter d'infléchir le cours des événements, malgré, comme on va le voir, des forces politiques hostiles avant et après les élections au suffrage universel d'avril 48. Plus que celle de 1789 et de 1830, c'est celle de 1848 qui pose la question de la condition ouvrière. La condition de la classe ouvrière qui a fortement cru pendant les débuts de la révolution industrielle et dont les conditions de travail se sont fortement dégradées du fait du développement des machines. Pour rappel, la loi Le Chapelier de 1792 avait interdit, je cite, « l'association des travailleurs pour renchérir les salaires ». Et le Code civil de Napoléon avait précisé dans son article 1080 que dans toute contestation sur la quotité des gages, c'est l'employeur qui sera cru sur sa parole, laquelle fera foi. Tout est presque dit dans ces deux articles de loi. L'ouvrier de 1848 est seul face à son employeur. Il est à la merci de ce dernier qui lui fournit du travail souvent par intermittence. Et l'État ne réglemente aucunement le marché du travail en salaire, en durée ou en conditions de travail, y compris pour le travail des enfants. De telle sorte, et le quotidien de l'ouvrier et la multi-activité entrecoupée de périodes de chômage. On vit à l'époque sous le régime de la monarchie dite de Juillet, de Philippe d'Orléans et de son premier ministre Guizot, une monarchie à façade parlementaire puisque le corps électoral est constitué de 500 000 personnes qui peuvent en élire seulement 50 000, ce qui donne une assemblée, comme l'écrit Karl Marx, composée de rentiers, de grands industriels et de banquiers qui font la vie économique du pays. Par ailleurs, le régime interdit les rassemblements publics et les manifestations politiques. Il censure aussi la presse. C'est une crise économique qui va provoquer la révolution de 1848. Suite à de mauvaises récoltes, l'augmentation des prix alimentaires semble par contre-coup faire baisser les prix de l'habillement, ce qui provoque une crise de surproduction dans le textile, des fermetures d'ateliers, une baisse du revenu ouvrier et du chômage. Aussi étonnant que cela puisse nous paraître, il semble que les ouvriers aient dû arbitrer entre les dépenses alimentaires et les dépenses d'habillement. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les nouvelles sociétés par action du chemin de fer connaissent leur première crise de liquidité et stoppent leur activité. Ce marasme cristallise le mécontentement auquel se greffent les revendications de droit de vote des classes moyennes et de liberté politique pour tout le monde. Le régime ayant interdit les réunions politiques, c'est par des campagnes de banquets festifs que s'exprime l'opposition durant l'année 47. Et c'est justement l'interdiction du dernier banquet en février 48 qui provoque les manifestations d'hostilité au régime. Le 22 mars, les étudiants, les ouvriers, les artisans, ainsi que les membres des sociétés secrètes républicaines et socialistes défilent dans Paris. Le 23 et le 24, la capitale se coupe de barricades et lorsque la garde nationale héritière de la milice bourgeoise de Lafayette se rallie aux émeutiers, le gouvernement n'ose ordonner à l'armée d'intervenir. Le 24 février, Philippe d'Orléans abdique. La République est proclamée à l'hôtel de ville et un gouvernement provisoire est constitué de la fusion des deux tendances républicaines, l'une libérale et majoritaire, l'autre, dit démocrate sociaux, avec l'avocat Ledru Rollin, le socialiste Louis Blanc, l'ouvrier Albert, le poète et aristocrate Lamartine, occupant du fait de son prestige la position centrale. Sous la pression populaire, le gouvernement établit le suffrage universel, proclame la liberté de réunion publique, lève la censure sur les journaux, il interdira plus tard la prison pour dette, abolira l'esclavage en indemnisant les propriétaires, et nombre de réformes, mais la grande affaire du gouvernement, c'est les milliers de chômeurs jetés sur le pavé par la crise et qui ont bien sûr joué un rôle déterminant dans la chute du régime. Il faut préciser ici qu'en récompense de leur état de service, la garde nationale s'est ouverte aux ouvriers, ce qui signifie que ces derniers ont un accès gratuitement à l'équipement et à l'armement, ce qui modifiera singulièrement le rapport de force dans la Révolution. Les libéraux se sont attribués les ministères des Travaux publics et des Finances dans le gouvernement provisoire, ce qui va leur permettre d'orienter la question la création des ateliers nationaux pour résorber le chômage. Les socialistes auraient souhaité la création de coopératives de production et de consommation, rachetées à crédit par l'État dans un premier temps, puis progressivement détenues par les travailleurs. Les libéraux y voyant tout à la fois une nationalisation, une entorse à la loi qui interdit l'association des travailleurs et une concurrence déloyale à la libre entreprise, entre guillemets, préfèrent ressusciter les ateliers de charité de l'ancien régime, ce qui consistait à donner aux ouvriers des travaux de voirie et de terrassement pour les occuper, donc un minimum vital, mais sans leur permettre de produire et de vendre quoi que ce soit. Ledru-Rollin et Lamartine concédèrent aux socialistes Louis Blanc la création d'une commission du gouvernement pour les travailleurs, dite commission du Luxembourg, évidemment consultative, ce n'était pas un ministère, qui fonctionnera selon l'historien Gérard Noiriel comme un parlement ouvrier, puisque 700 délégués des différents corps de métier se succéderont pour élaborer un droit du travail indépendant des exigences des employeurs. Les travaux de la commission aboutiront à fixer un maximum d'heures travaillées, 10 heures à Paris, entre 12 précédemment, et à interdire le marchandage, c'est-à-dire les intermédiaires entre le patron et les ouvriers, qui intermédiaires qui ramassaient la commande, distribuaient le travail aux différents corps spécialisés à la tâche, d'où leur surnom de tâcheron. Le gouvernement provisoire est occupé par la préparation des élections pour la partie gauche du gouvernement, sans qu'elles ne leur soient pas favorables. Donc, élections qui sont par ailleurs une première fois repoussées, mais le 23 avril ont lieu les premières élections au suffrage universel, qui convoque 10 millions de citoyens pour élire une assemblée dite nationale et constituante. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de parti, trois blocs se dégagent, les conservateurs à tendance monarchiste à droite, les démocrates sociaux et les socialistes à gauche, et au centre, les républicains libéraux, qui représentent la tendance majoritaire du gouvernement provisoire. Les socialistes constatent que les campagnes sont, au moins pour cette élection, nettement moins réceptives à la question sociale que les masses ouvrières des villes. Ils vont d'ailleurs s'en apercevoir très rapidement, puisqu'à Rouen, l'ancien procureur général Sénard, élu très largement à la Constituante, et à qui l'on prêtait la volonté de supprimer les ateliers nationaux, réprime une manifestation ouvrière en faisant donner la garde nationale, puis en envoyant l'armée contre les barricades érigées dans la nuit dans le quartier ouvrier. Le 15 mai à Paris, une manifestation de solidarité en faveur du mouvement national polonais dégénère. Les ouvriers et quelques leaders socialistes envahissent le palais Bourbon, laissé curieusement sans défense, pour y proclamer un nouveau gouvernement provisoire. La troupe intervient et met au cachot tous les leaders socialistes de l'époque, Barbès, Banqui, Albert, et dissout la commission du Luxembourg. À partir de ce moment, la politique de l'Assemblée prend un tour nettement plus conservateur. Le 2 juin, elle prend la décision de ne plus attribuer d'allocation publique aux chômeurs, décision qui évidemment conduit à une nouvelle émeute dans les quartiers ouvriers. Le 23 juin, elle décide la suppression des ateliers nationaux, laissant pour seule possibilité à ses 117 000 bénéficiaires de s'engager dans l'armée ou d'aller défricher la Sologne. Pour rappel, les ateliers nationaux coûtent à l'époque 1% du budget au gouvernement. Certains historiens, et non des moindres, considèrent que la suppression des ateliers nationaux est une manœuvre des conservateurs pour se débarrasser des résistances ouvrières, mais aussi de la commission exécutive de l'Assemblée, jugée trop modérée, et ainsi la remplacer par un homme fort. Donc, en préparation des émeutes, le général républicain Cavaignac est nommé au ministère de la Guerre. Il fait venir des troupes de province pour affronter des insurgés. Du 23 au 25 juin, les quartiers ouvriers de l'Est parisien se couvrent de barricades. Il semblerait que la garde nationale se divise entre habitants des quartiers de l'Est et de l'Ouest. Mais quoi qu'il en soit, 15 000 ouvriers affrontent au minimum 60 000 hommes constitués de l'armée, d'une partie de la garde nationale et de la police parisienne. L'émeute dure 3 jours. Elle fait un minimum de 4 000 morts côté ouvriers, mais les chiffres ne sont pas très fiables, auxquels il faut ajouter les 1 500 fusillés sans jugement, et les 11 000 condamnations, dont un certain nombre, à la déportation en Algérie. À la suite des émeutes, la Chambre exige la démission de la commission exécutive qu'elle remplacera par le général Cavaignac. Alors je ne vais pas m'étendre sur la suite, seulement pour signaler que la Deuxième République ne conservera aucune conquête sociale. À titre d'exemple, le marchandage deviendra un délit dans les années 1900. Mais surtout pour signaler l'œuvre de cette Deuxième République issue des élections de 1949, élections fortement polarisées comme on s'en doute, où apparaîtra ce qu'on appellera le Parti de l'Ordre, avec des leaders comme Thiers, Fallou ou bien Louis-Napoléon Bonaparte, dont Thiers disait, avant qu'il soit empereur, que ses capacités intellectuelles n'en feraient pas un danger. La Deuxième République rétablit la censure, abolit le suffrage universel, qui ramènera le corps électoral à 3 millions de personnes, ordonnera aux gendarmes de verbaliser tout signe extérieur évoquant le socialiste, c'est-à-dire le port de la cravate rouge à l'Assemblée, par exemple, mais aussi les chansons qui évoquent les profits sociaux, Elle mettra au cachot ses propres députés, rétablira le pape dans ses états pontificaux au cours d'une expédition en Italie, et enfin promulguera la fameuse loi Falloon, dite loi de liberté, qui autorisera les religieux à ouvrir leurs propres écoles et leurs propres universités, mais surtout qui placera l'enseignement public sous le contrôle de l'évêque. Il est à noter, comme a dit Victor Hugo, que le cléricalisme du Parti de l'Ordre était tout à fait intéressé et opportuniste, puisque M. Montalembert, par exemple, un des promoteurs de la loi Falloon, dira à l'Assemblée, je cite, « Bien d'autrui tu ne prendras, c'est la seule loi du christianisme. » Ou encore M. Falloon, dans ses mémoires, « Le premier devoir du prêtre, est ce que nous lui demandons avant tout, c'est d'enseigner aux pauvres la résignation. » Bref, lorsque la Deuxième République tombera entre les mains de Louis Bonaparte, qui prétendra rétablir le suffrage universel avec le plébiscite, presque personne ne la défendra, en dehors des quelques quartiers ouvriers.
Ok. Moi, je voulais préciser quelques petites choses, notamment sur une des forces qui a réprimé donc en juin, c'est aussi les mobiles, qu'il faut distinguer de la garde nationale parce que c'est une force qui est plus professionnelle. Elle est, comme son nom l'indique, mobile, ce qui veut dire qu'on peut la bouger d'un bout à l'autre de la France et donc on peut emmener des provinciaux monter sur Paris pour faire part à la répression. Et ça va jouer un rôle parce que même si en 48 la garde nationale était divisée et mixte, en 1871, comme on le verra, là on a clairement une opposition frontale entre d'une part la garde nationale et de l'autre part les mobiles, qui eux là seront clairement dans le camp de la réaction. C'est une première chose et je voulais souligner une des trajectoires dont je voulais parler au sujet de 1848, c'est la trajectoire de Cluseret. Alors Cluseret, il est connu pour avoir été le délégué à la guerre de la Commune pendant à peu près la moitié de son existence. Mais il faut savoir qu'en 48, il était dans le mauvais camp. Il venait de quitter l'armée où il avait commencé sa carrière et il s'était engagé effectivement dans les mobiles pour y obtenir un grade d'officier. Et il a participé donc à la répression des barricades, dont il s'est lui-même vanté d'en avoir enlevé trois, assortis des drapeaux des insurgés. Et donc, à l'époque, il était vraiment très favorable au Parti de l'Ordre, même s'il était républicain. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la division traversait le camp républicain à l'époque. Et une partie du Parti de l'Ordre, de bonne foi ou non, c'est peut-être pas forcément très important, mais une partie du Parti de l'Ordre prétendait être en train d'essayer de sauver la République contre des éléments radicaux qui voulaient l'entraîner trop loin et la ruiner, ce qui était la position de Cluseret. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il n'a fait que défendre, à l'inverse, des bonnes causes. Il s'est engagé dans l'expédition des Mille de Garibaldi pour l'unification de l'Italie, et donc l'expédition des Mille, c'est celle qui a débarqué en Sicile. Ensuite, il est allé aux États-Unis pour soutenir la cause nordiste, où il s'est engagé dans les troupes du général McClellan. Et ensuite, il est revenu en Europe pour participer au combat des Fenians en Irlande contre la domination anglaise. Il s'est fait d'ailleurs condamner à mort par contumace en Angleterre. Et il a tenté de rejoindre l'armée napoléonienne. Il a même participé à la campagne de Crimée, mais il a été éjecté de l'armée de Napoléon parce que pour républicanisme affiché, qui à un moment donné n'était pas très favorable, enfin c'était pas une bonne idée chez Napoléon. Et donc il s'est retrouvé sans emploi, on va dire, au moment de la Commune, et il s'est engagé cette fois-ci du côté des communards. Donc on voit que les trajectoires peuvent être très heurtées. Et qu'à l'inverse, on a une trajectoire aussi très intéressante, plus politique, celle-là, qui est celle de Delescluze, qui est à 48.
Excuse-moi, mais sur Cluseret, il a quand même mal fini, puisqu'il a fini anti-dreyfusard.
Il a fini anti-dreyfusard et boulangiste.
Ouais, c'est pas fou, terrible. Hein.
Il a fait tout le cercle, il a fait le circuit complet. Il a été député du Var sous la Troisième République, effectivement, et dans le camp boulangiste, ligard et anti-dreyfusard. Mais en ayant été, entre-temps, délégué à la guerre de la Commune. Va comprendre. Cluseret, lui, il n'a pas eu l'occasion de vraiment dégénérer, puisqu'il est mort, en fait, en 71, pendant la Semaine sanglante.
Delescluze.
Ouais, vas-y.
Tu as dit Cluseret, c'est Delescluze.
Delescluze, pardon. Excuse-moi, oui, t'as raison. Delescluze, lui, donc, il est mort pendant la Semaine sanglante. Alors, sa trajectoire est aussi intéressante, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un 48-art, là, très classique, très pur jus, qui est tout un symbole au moment de la Commune, parce qu'il a tout, lui, pour le coup, il a toujours été dans le bon camp et il a payé de sa personne. Hein, il fait partie des gens qui ont été poursuivis et emprisonnés à la fin de la Deuxième République et sous l'Empire. Et donc, il participe, donc il est élu à la Commune. Et là, pour le coup, bon, il a quand même... moi, je dirais qu'il a quand même fait un faux pas, comme on le verra dans la suite de notre émission, c'est qu'il a fini par participer au coup d'État du comité de salut public qui a, pour ainsi dire, on pourrait dire, renversé la Commune classique et imposé un pouvoir beaucoup plus restreint et dictatorial, qui n'a d'ailleurs pas servi à grand-chose dans le sauvetage de la Commune. Et on peut penser qu'il s'en est rendu compte quand il a décidé d'aller mourir sur les barricades de la place de la Nation ou de la place de la République. Pardon, c'est la place de la République. Il est mort sur ce qui, à l'époque, ne s'appelait pas comme ça, et j'ai un trou. La place du Château d'Eau, ça s'appelait à l'époque, et donc il est allé mourir sur ces barricades-là quand tout était perdu. Voilà. Mais on a des trajectoires qui peuvent être assez variées. Et on pourrait rajouter, mais là, lui, par contre, il n'était absolument pas présent en 48, parce qu'il était beaucoup plus jeune, Rossel, qui a été le successeur de Cluseret, et qui, lui, a rejoint la Commune, mais pour des buts purement nationalistes. Il n'avait rien d'un internationaliste, à la différence de Cluseret, qui a rencontré Varlin en 68 en prison, et qui a rejoint l'International. Alors, vous me direz, pour finir anti-Dreyfusard et boulangiste, c'est bien le comble. Mais n'empêche qu'au moment de la Commune, il était adhérent de l'International, effectivement, et ami très proche de Varlin. Voilà, donc on voit bien que les flots de l'histoire peuvent balancer les gens d'un côté à l'autre, quoi. Et on voit que de 48 à 71, les trajectoires ont pu être tout à fait opposées, évoluées, mais en même temps, il y a bien un fond commun que je pense que les anciens 48ards n'ont pas compris. En quoi la Commune voulait avancer plus loin que 48. Et je crois que, par exemple, on voit bien l'aveuglement de Delescluze, qui ne comprenait absolument pas les internationalistes, par exemple, et qui était franchement un peu largué, en fait, pour assurer le rôle qu'on lui avait demandé d'assurer, qui était en fait le chef politique et militaire de la Commune sur la fin. Et il suivait pas tellement, en fait. Hein. Il était perdu, il faut le dire. Voilà. Mais il avait un certain âge à l'époque. Hein. Il avait fait 48, lui.
Et toutes ces trajectoires d'hommes de premier plan, c'est sans oublier évidemment que la condition ouvrière, elle, tout au long du 19e, et surtout sa deuxième partie du 19e siècle, c'est un climat où le patron a tout pouvoir et où la protestation est réprimée. Est-ce que quelqu'un veut toucher un mot là-dessus pour conclure ? Non. Je croyais.
Oui, on peut signaler l'instauration du livret ouvrier, en fait, hein, qui effectivement est la forme suprême de contrôle social réservé à l'ouvrier, c'est-à-dire où tous les employeurs, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle à la fois de ses déplacements, et tous les employeurs annotent en fait ce qu'il a fait, ce qu'ils en pensent. Voilà, donc c'est un flicage, et les libéraux en fait craignaient la mobilité de la main-d'œuvre, évidemment, puisque le salariat n'existait pas, et elle craignait le vagabondage, le délinquant. Enfin, il y a une vraie criminalisation à l'époque du pauvre, du travailleur manuel, dont on n'a pas idée aujourd'hui.
Oui, le contrat, en fait, ce qui n'existait pas, c'était le contrat de travail, qui a en fait été mis en place par les patrons pour stabiliser la main-d'œuvre. Parce qu'il fallait casser la liberté du salarié à ne pas venir travailler le lundi, par exemple, ou à ne pas venir travailler du tout, ou à afficher son billet et partir ailleurs. Et donc, il y a eu un vrai travail, effectivement, soutenu par la police de Napoléon III, d'ailleurs, qui avait un rôle essentiel dans le contrôle du libre ouvrier, pour stabiliser et corseter la main-d'œuvre et l'obliger à s'attacher à telle ou telle entreprise. C'est une évolution notable, effectivement, entre 48 et 71.
Alors, un autre lien qui lie toutes les révolutions, et surtout les révolutions des grandes capitales comme Paris ou Madrid, ce sont les barricades. Et alors, en rappel de toutes ces barricades qui ont fleuri lors des révolutions, ben, on va écouter celle d'une autre révolution, celle de 36 en Espagne, une révolution plus anarchiste. On écoute par la Compagnie Jolimum, « A las barricadas ».
Mec, c'est la merde, on est vraiment en galère de thunes.
FPP achète bientôt une nouvelle table de mixage pour remplacer la console actuelle qui devient obsolète. Retrouvez le lien de la cagnotte sur rfpp.net ou sur notre page Hello Asso.
Alors soutenez la voix des sans-voix.
106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des spécialistes de toutes les émissions pour parler de révolution.
Alors, de pas toutes les révolutions, mais celle du 19e siècle, et nous avons parlé jusqu'ici de la révolution de 1848 et des trajectoires parfois un peu particulières de ces grands hommes ou de ces petits hommes qui ont fait les révolutions. Et maintenant, on va aborder la commune de 1871, dont on fête le 150e anniversaire et dont on vous reparlera d'autres fois dans d'autres émissions. D'ailleurs, on en a déjà parlé il y a un mois, avec les prémices et le tout début de la commune. Et là, c'est la suite, c'est la commune numéro 2, avec Jean-Marc.
Alors la Commune, c'est une révolution qui commence presque par hasard à l'aube du 18 mars 1871. Elle ne durera que 72 jours. 72 jours, c'est bien peu, mais c'est 72 jours d'espoir, de drame, de grandeur et de misère qui vont des flancs de la butte Montmartre jusqu'à ceux du Père Lachaise. La Commune fut la période peut-être la plus dense de l'histoire de France, tant les événements, les réalisations et les projets se succèdent à une vitesse effrénée. Après l'euphorie de l'aube de ce 18 mars, la fraternisation avec une partie de la troupe, les Montmartrois puis l'ensemble des Parisiens se trouvent devant l'exigence de s'opposer au gouvernement de Versailles qui a essayé de les désarmer, de s'opposer par les armes justement et par la politique. Comme en 1792-1793, qui sera une référence régulière dans la Commune, la situation semble désespérée et les Parisiens, cette fois, ne font pas face à des hordes étrangères, mais doivent faire face à ce ramassis de pleutres, de royalistes, de bonapartistes, de républicains réactionnaires ou encore d'opportunistes divers qui forment l'Assemblée d'alors comme le gouvernement. Une racaille bourgeoise qui a plus peur de ses ouvriers que des Prussiens et qui a préféré se coucher devant les seconds pour mieux bomber le torse devant les premiers. Sur quoi peuvent donc compter les insurgés ? Sur les canons qu'ils viennent de sauver, sur la garde nationale qui compte théoriquement 200 000 citoyens armés et qui a, trois jours avant la Commune, élu un comité central très ouvrier. Très ouvriers, il faut dire qu'une partie des bourgeois de la garde ont déjà quitté Paris et quelques milliers d'autres vont les suivre, les rejoindre vers Versailles après le 18 mars. Car pour cela, la garde nationale, ce ne sont pas les ouvriers. La garde nationale, pour ces gens-là, c'est Lafayette et le massacre du Champ de Mars. La garde nationale, c'est ça et pas les rouges. Ce comité central s'installe à l'hôtel de ville au soir du 18 mars pour inventer un nouveau pouvoir. Dès le 21, il abroge les décrets de l'Assemblée et prend les premières mesures de sauvegarde économique en faveur du peuple, comme l'interdiction de la vente des objets du monde-piété ou l'interdiction des expulsions de locataires. Déjà, me direz-vous. Le premier chantier, c'est d'organiser la démocratie. Puisque nous ne sommes pas face à des hordes révolutionnaires comme veulent le faire croire les Versaillais, des gens qui seraient des barbares assoiffés de sang, mais des gens qui sont assoiffés de liberté et de démocratie. Donc, malgré l'adversité, ils veulent s'organiser et organiser une démocratie. Le comité s'étoffe tout de suite de délégués de tous les arrondissements et parvient à préparer des élections pour élire une commune. Encore une référence à la Grande Révolution. Les bulletins, les bureaux de vote et même un appel du comité central de garde nationale sont imprimés en quelques jours et les élections se tiennent dès le 26 mars. 480 000 électeurs inscrits environ, dont sans doute 60 à 80 000 ont déjà fui Paris. Quelques 230 000 suffrages exprimés, ce qui, malgré les circonstances et le délai très court, fait une participation nettement supérieure à celle d'aujourd'hui.
On écoute justement l'appel du comité central de la garde nationale du 25 mars 1871, redit par la compagnie Jolimum.
Appel du comité central de la garde nationale aux électeurs parisiens, le 25 mars 1871.
Citoyens, ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant votre vie, souffrant des mêmes maux. Défiez-vous autant des ambitieux que des parvenus. Les uns comme les autres ne consultent que leur propre intérêt et finissent toujours par se considérer comme indispensables.
Défiez-vous également des beaux parleurs, incapables de passer à l'action. Ils sacrifieront tout à un beau discours, un effet oratoire ou un mot spirituel. Méfiez-vous également de ceux que la fortune a trop favorisés, car trop rarement celui qui possède la fortune est disposé à regarder le travailleur comme un frère.
Enfin, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Portez vos préférences sur ceux qui ne brigueront pas vos suffrages. Le véritable mérite est modeste, et c'est aux électeurs à choisir leurs hommes, et non à ceux-ci de se présenter.
Citoyens, nous sommes convaincus que si vous tenez compte de ces observations, vous aurez enfin inauguré la véritable représentation populaire. Vous aurez trouvé des mandataires qui ne se considéreront jamais comme vos maîtres.
92 postes sont donc à pourvoir lors de ces élections à la Commune de Paris. Mais finalement, tous ne seront pas pourvus à cause des élections multiples. À l'époque, c'est une chose qui nous paraît un peu bizarre aujourd'hui, le même candidat peut se présenter à plusieurs endroits et être élu donc plusieurs fois, ce qui réduit de fait le nombre de députés physiques. Une majorité révolutionnaire se dégage néanmoins, une majorité très nette avec 60 sièges, contre seulement 19 pour les modérés. C'est donc une tête révolutionnaire que se sont choisis démocratiquement les citoyens de Paris, mais une tête composée de différents courants de la pensée révolutionnaire du siècle, certains se référant à la Grande Révolution, d'autres à 1848, d'autres à l'International, d'autres encore à Proudhon. Bref, il y a trois courants majoritaires. Les Jacobins, au nombre de 40, ils sont nostalgiques de 1793, de Robespierre et de Babeuf. Parfois, ce sont des vétérans de 1848, on en a parlé précédemment. Ils veulent la démocratie intégrale et un gouvernement révolutionnaire centralisé. Les CRO sont, par exemple, Delescluze et Piat. Les internationalistes sont au nombre de 17. Ils sont issus de la deuxième internationale et tournés plutôt vers les questions sociales et ouvrières. Et parmi eux, on rencontre des gens comme Vallès ou Varlin.
Les blanquistes, la première internationale.
Les blanquistes au nombre de 12, favorables à un pouvoir révolutionnaire fort. Donc, seraient-ce les prémices du léninisme? On peut se poser la question. Blanqui, lui, est élu mais ne pourra pas siéger. Il a été arrêté illégalement quelques semaines plus tôt sur les ordres de Thiers et ne pourra donc jamais rejoindre Paris. Les communards se mettent au travail. Tandis que les Versaillais, un temps sonnés par la mauvaise surprise de cette révolution impréparée, eux préparent la contre-offensive contre les Rouges et l'entrée dans la guerre civile qui sera effective dès le début d'avril. Commence alors une course contre la montre. Une course contre la montre pour organiser la garde nationale, pour monter la garde sur les murs de Paris. Le plus drôle, c'est que les murs de Paris en question ont été voulus et construits par Thiers lui-même 30 ans plus tôt, et dans les 16 forts avancés qui les complètent en proche banlieue. L'autre défi est d'alimenter les Parisiens de manière équitable. Les vivres rentrés après le terrible siège de 1870 sont suffisantes pour un moment. En effet, une bonne partie de la population parisienne étant en fuite, les bourgeois notamment, il y a suffisamment pour tout le monde. Mais il faut que ce soit distribué. Alors on organise des cantines populaires, on organise des soupes collectives, des boulangeries autogérées, pour que tous puissent manger. La commune n'oublie personne. Depuis les fédérés en armes jusqu'aux enfants, tout le monde doit manger à sa faim et tout doit être partagé. La production, les prix, sont encadrés pour éviter tout dérapage et toute spéculation. Les projets et les réalisations s'enchaînent, mais pour cela, nous les détaillerons donc dans l'émission spéciale de mars avec Mathilde.
Mathilde qui nous rejoindra, mais en attendant, on va être rejoint par Jean Ferrat, qui nous chante la commune.
Il y a 100 ans, commun, commune, comme un espoir mis en chantier. Voile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir tous les spécialistes de la Révolution pour parler de la Commune et autres.
Et on continue l'intervention de Jean-Marc sur la Commune. Il vient de nous expliquer comment les premières élections ont amené un pouvoir bien différent des précédents à la tête de la commune, mais pourtant la révolte est aux portes de Paris.
Alors, la révolte suit son cours, les combats font rage dès le début du mois d'avril pour repousser les premières tentatives versaillaises. Tandis qu'un certain nombre de villes de province se soulèvent réellement ou symboliquement, comme Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Narbonne, Le Creusot, et que d'ailleurs révolutionnaires éclatent dans plus de 20 autres. Ceci laisse espérer aux meneurs parisiens qui récupèrent une partie des informations, un relais, une propagation en province, qui permettrait de faire vaciller ou tomber la République des Nantis et d'installer enfin la sociale. On retrouve partout, dans toutes ces communes de Paris ou de province, une majorité d'ouvriers, mais aussi des intellectuels, des enseignants, des professions libérales ou encore de nombreux commerçants. On retrouve aussi, de façon nationale ou locale, cette terrible opposition entre les campagnes et les villes. Une paysannerie qui ne se ralliera jamais aux communes et fournira une bonne partie de ses troupes aux Versaillais. En bref, on pourrait dire la faucille contre le marteau. Une problématique qui sera largement réfléchie par les bolcheviques quelques années plus tard. La guerre civile suit son cours, si j'ose dire. Les Versaillais bombardent Paris comme les Prussiens l'ont fait quelques mois plus tôt. Pour écraser Paris la Rouge, ils accuseront plus tard les communards d'avoir détruit Paris, mais ce sont surtout les obus de Versailles qui l'ont éventré et incendié. Les tenants de l'ordre, qu'ils appellent républicains, réunissent une armée de 130 000 hommes pour fondre sur Paris, défendue par moitié moins de fédérés armés. Au mois de mai, l'armée des sabreurs intensifie sa pression et se prépare à l'Alali contre les Rouges, présentés comme des brigands, des brutes avinées, des semeurs de troubles, des terroristes, bref, des horreurs, voire des fous, par la propagande bien pensante, ce qui n'est pas sans rappeler la façon dont certains médias ont présenté il y a peu les gilets jaunes en France.
Alors, en parlant de couleur, on va écouter d'une autre couleur, celle rouge. Rouge était le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, lui-même un communard. On continue avec l'histoire de la commune. On était sur les combats qui étaient aux portes de Paris entre les communards et les Versaillais. On connaît bien l'épisode des canons récupérés par les communards, mais mes camarades Bud va vous préciser quelques autres anecdotes sur l'armement des communards.
Ah oui, parce qu'en fait, on a des images très très fausses en fait des combats de la commune de Paris, parce qu'en fait, il y a une confusion permanente entre les combats de 1830, ceux de 1848 et ceux de 1871, mais ça ne se ressemble pas du tout. Pour vous donner une idée, déjà, Paris sortait d'un siège, donc Paris était surarmé relativement aux périodes précédentes. Ils avaient monté des productions locales d'armes et notamment ils avaient acheté le brevet de la toute première Gatling. Les communards avaient une centaine de mitrailleuses de différents modèles, dont une certaine produite à Paris pendant la Commune. Évidemment, avec les mitrailleuses, leur problème principal c'était les munitions, et ça ils en avaient pas suffisamment. Mais ils avaient un parc de munitions qui était énorme. Donc les Versaillais ont fait sauter par trahison, hein. Mais bon. Et par ailleurs, ils avaient une flottille à vapeur. Et oui. Le 19e siècle, c'est le temps du développement de la vapeur. Et en 1871, les péniches sur la Seine étaient des péniches à vapeur. C'était des vaporettes. Et ils les ont blindés, ils les ont armés avec des canons, qui sont pour la première fois en France des canons rayés en acier. Et ça, je dis ça parce que le Deuxième Empire avait commencé la guerre avec les habituels canons à âme lisse en bronze qui tiraient deux fois moins loin que les canons allemands. Et c'est sous l'influence des Allemands qu'ils ont adopté le canon de 7, qui est le futur canon de 75. Qui a âme rayée et qui tire beaucoup plus loin. Donc, ils avaient des canons à âme rayée, des fusils chasse-peau à âme rayée, des mitrailleuses, des canonnières à vapeur sur la Seine et deux trains blindés armés d'armes lourdes, plus des canons extrêmement lourds qu'ils faisaient déplacer sur le chemin de fer de ceinture qui venait d'être inauguré. Donc, on n'a pas du tout On a oublié que pendant... On pense à la semaine sanglante, et on fait quelque chose, on se fait dans sa tête quelque chose qui ressemble aux barricades de 48. La semaine sanglante, c'est le résultat de plus d'un mois et demi de combat sur un front de 60 km de long en avant de Paris, le long de la Seine. Ça n'a rien à voir, en fait. On est déjà dans la guerre de tranchées. Et d'ailleurs, c'est la première fois que l'armée française, je parle de l'armée versaillaise, doit affronter des mitrailleuses et trouver des palliatifs à cette arme qu'elle a elle-même développée contre les Prussiens. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très différent, en fait, et c'est quelque chose qui est mal compris. La garde nationale de 71, c'est presque une petite armée populaire, bien équipée, assez peu organisée, mais clairement, ils n'avaient pas de déficit ni d'armes, ni de munitions à l'époque. Donc, c'est pas du tout comme on s'imagine. Voilà. Il faut pas limiter les combats à la semaine sanglante, c'est tout à fait erroné.
Et malgré tout, les communards vont aller de revers en revers. Et Jean-Marc reprend pour nous décrire la catastrophe du 21 mai.
Alors, ils vont de revers en revers parce que, de toute façon, quel que soit leur équipement, ils sont cernés. Ils n'ont aucun secours à attendre de l'extérieur, alors que ceux auxquels ils font face, justement, ont des ressources quasiment illimitées. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des ordres contradictoires donnés par la commune et par les gouvernements successifs de cette commune, qui ne vont pas faciliter les opérations militaires et qui vont même créer plusieurs de ces échecs. Bref, on arrive jusqu'à la catastrophe du 21 mai, quand les Versaillais réussissent à pénétrer dans Paris par une brèche porte de Saint-Cloud. Commence alors la semaine terrible, une semaine de combats, rue par rue, barricade par barricade, au canon, au fusil, à l'arme blanche, jusqu'à l'intérieur des immeubles et des appartements, préfiguration des terribles combats de la guerre d'Espagne comme de ceux de la Deuxième Guerre mondiale. La semaine sanglante se poursuit d'est en ouest. D'ouest en est, pardon. Les tueurs de tiers avancent très lentement, car une fois de plus, ils ont sous-estimé la force de ce peuple qui leur fait si peur, mais qu'ils méprisent tellement. Les exécutions sommaires se multiplient au fur et à mesure qu'ils avancent, tandis que les officiers versaillais organisent des cours martiales ridicules aux sentences sans appel, ce qui préfigure les tourniquets de la Grande Guerre. L'Est parisien, l'Est ouvrier se bat, mais craque sous le nombre des obus, sous le nombre des Versaillais. Le combat fait rage jusqu'au 28, où l'on se bat jusque dans le Père Lachaise, de tombe en tombe. Les communards ont perdu et leur triste vainqueur s'offre un dernier massacre en fusillant à tout va les rouges trouvés sur place contre ce triste mur qui prend alors le nom de mur des fédérés. La commune est morte sous les balles, mais la commune entre dans l'histoire, dans la légende et dans la geste révolutionnaire internationale. De 8 000 à 30 000 communards sont morts, selon les estimations, en une semaine. Mais ce n'est pas encore suffisant pour les lâches de Versailles qui doivent faire un exemple définitif pour décourager toute nouvelle révolte ouvrière. Les Versaillais veulent un exemple. Ils veulent faire payer leur peur et instaurent les tribunaux d'exception pour juger les 40 000 prisonniers de la commune. 36 000 seront jugés. 10 000 seulement condamnés, tellement les arrestations ont été larges et ridicules. 10 000 condamnés, des hommes, des femmes et même des enfants. Certains condamnés à mort. Beaucoup aux travaux forcés, à la déportation en Nouvelle-Calédonie, à l'emprisonnement simple, au bannissement, et en plus des amendes.
Alors pour cette histoire, cette fin d'histoire terrible, on va écouter une chanson qu'on connaît tous, je pense, l'Internationale. Les paroles de l'Internationale ont été écrites pendant la Commune. C'est devenu un chant qu'on connaît maintenant, rallié... le monde entier derrière une bannière, mais cette chanson de la Commune, écrite par Eugène Potier, n'avait pas encore la musique de Pierre Desjeter, écrite bien plus tard, en 1888. Et la première musique de l'Internationale, bah, c'est une chanson que vous connaissez peut-être. Alors on va l'écouter ici, chantée encore une fois par la compagnie Jolimum. Alors on reprend avec un tout à fait autre sujet, beaucoup plus d'actualité, avec Gaël qui va nous expliquer qui va payer la dette Covid.
Mais oui, qui ? Comme vous le savez, les déficits et les dettes publiques ont explosé, à la fois sous l'effet de la récession provoquée par le coronavirus et des dispositifs de relance et de soutien aux entreprises. En France, la dette publique a augmenté de 20 points de PIB en 2020 et on estime à plus de 200 milliards d'euros la partie de la dette qui est liée au Covid. Alors le gouvernement a nommé une commission sur l'avenir des finances publiques, présidée par Jean Arthuis, qui est un ancien ministre des Finances de Chirac. Son mandat, c'est de faire des propositions sur la façon de rembourser la dette Covid sans augmenter les impôts, grâce, je cite, à une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques et des réformes structurelles.
Par exemple, ouais. En supprimant des infirmières.
Voilà, le monde d'après ressemble furieusement à celui d'avant, avec les mêmes potions amères de droite. La gestion plus rigoureuse des dépenses publiques, comme ils disent, les réformes structurelles, on sait ce que ça veut dire dans la bouche de ces gens-là. On a vu les effets dévastateurs sur le système de santé et sur les services publics de manière générale. C'est un peu comme s'ils n'avaient rien compris à ce qui s'est passé. Alors, Attac a publié une note il y a quelques jours avec des propositions alternatives. Cette note est rédigée par Dominique Plion, qui est économiste, et Vincent Drezet, ancien secrétaire du SNUI, le syndicat des impôts, qui est un spécialiste de la fiscalité. La note commence par relativiser le fardeau de la dette, et ça c'est important parce que les libéraux ont toujours tendance à instrumentaliser cette dette pour justifier les politiques d'austérité. Vous connaissez le discours, « Ah mais c'est irresponsable d'augmenter les minima sociaux, pensez à la dette qu'on va laisser à nos enfants ». Il faudrait peut-être demander l'avis des enfants de RMistes. Alors pourquoi la dette n'est pas si lourde? Parce que les taux d'intérêt sont très faibles, voire négatifs. Le montant des intérêts payés par l'État sur la dette, il est passé de 35 milliards d'euros en 2019 à 31,7 milliards en 2020 et seulement 27,2 milliards en 2021. Et cette baisse de la charge de la dette, c'est-à-dire le paiement des intérêts, ça devrait se poursuivre à court terme pour une raison simple, c'est qu'au fur et à mesure que la dette ancienne qui a été émise à des taux beaucoup plus élevés arrive à échéance, bien cette dette ancienne est refinancée par l'émission de nouvelles obligations, mais avec des taux beaucoup plus bas. Donc ça c'est pour relativiser le poids de la dette. Ensuite, Attac propose une nouvelle politique de la dette en trois axes. Le premier, c'est de restructurer les dettes publiques. Alors ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un rééchelonnement de la dette, c'est-à-dire reculer les échéances, une dispense de paiement des intérêts, voire une annulation partielle ou totale de la dette. Alors ça fait bondir les économistes orthodoxes, et pourtant trois pays l'ont déjà fait avec succès, l'Argentine en 2005, l'Équateur en 2007 et l'Islande en 2008. Et pour ce qui est de l'Islande, elle se porte très bien aujourd'hui. On peut même remonter plus loin dans l'histoire tout en restant en France. Au XIVe siècle, Philippe le Bel, pour faire face à une crise financière, avait simplement coupé la tête de ses créanciers. Le deuxième axe de cette...
Ça, j'aime bien.
Ouais, on voilà. peut faire ça aussi, ouais.
C'est plus simple. Le deuxième axe de cette politique de la dette, ce serait de nationaliser la dette publique, de manière à réduire la part de la dette détenue par des investisseurs étrangers. C'est le modèle du Japon, dont la dette publique est détenue à 80% par des institutions financières nippones. On pourrait donc obliger des institutions financières nationales, de préférence publique, à acheter de la dette émise par l'État. Et ça permettrait, le fait que ça reste au niveau national, de contrôler nos créanciers. Le troisième axe de cette politique, ce serait de financer les dettes publiques par la Banque Centrale Européenne. Ça se passerait de la manière suivante. La BCE achèterait des dettes publiques, elle les transformerait en dettes perpétuelles, non remboursables, et elle reverserait les intérêts perçus aux États membres, puisque la BCE c'est nous, ce qui permettrait donc de supprimer la charge de la dette publique. Donc tout ça, c'est la politique de la dette, enfin une politique de la dette alternative proposée par Attac. Il y a un deuxième levier pour alléger le poids de la dette, c'est la fiscalité. On a un impôt en France qui s'appelle la CRDS, Contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui est un des impôts les plus injustes, puisqu'il a un taux unique de 0,5% qui est appliqué aux revenus de tous les particuliers, quel que soit le niveau de revenu. Et cet impôt, il devait disparaître en 2024. Or, le gouvernement a décidé de prolonger la CRDS jusqu'en 2028, voire 2032, pour rembourser la dette Covid. Donc c'est les pauvres qui vont rembourser la dette. Pendant que les milliardaires français ont vu leur fortune dépasser le niveau d'avant la crise et que 1 million de personnes sont tombées dans la pauvreté en France en 2020, selon le dernier rapport d'Oxfam. Attac propose donc de remplacer cette CRDS par une CRDC, contribution au remboursement de la dette Covid, mais qui serait payée par d'autres personnes. Elle serait prélevée uniquement sur les ménages les 1% les plus riches et sur les grandes entreprises. Sur les riches particuliers, il pourrait s'agir d'une taxe sur les revenus financiers qui sont très peu taxés, sur le patrimoine qui a bénéficié de l'allègement de la suppression de l'impôt sur d'une partie de l'impôt sur la fortune et sur les successions. Donc voilà les propositions d'Attac. Alors pour accompagner ce rapport un petit peu austère, Attac a prévu plusieurs actions nettement plus ludiques, spectaculaires sur tout le territoire contre les profiteurs de crise. On ne connaît pas encore le programme, mais on sait que LVMH est visé. Donc LVMH, c'est le géant du luxe français, qui est impliqué dans plusieurs scandales d'évasion fiscale et auxquels le gouvernement ne pensait pas nécessairement comme contributeur au remboursement de la dette. Le propriétaire de LVMH, c'est Bernard Arnault, c'est la première fortune française. Son patrimoine a grossi de 9 milliards de dollars en 2020. Donc moralité, pour rembourser de la dette, de l'argent, il y en a.
Dans les caisses du patronat. Ce qui conclut toute cette émission révolutionnaire, révolution d'aujourd'hui, révolution d'hier ou d'avant-hier. Et on remercie tous ceux qui ont participé de toutes les émissions en mode d'emploi. Il y avait Ludo qui nous a parlé de 1848, avec Bob qui a fait la transition jusqu'à Jean-Marc sur la Commune, et Gaël qui a conclu sur les révolutions à venir. On remercie évidemment Claude à la technique, et j'ai une pensée triste pour un ami parti dans le grand vent. Pour terminer l'émission, on reprend Le Temps des Cerises, chanson de la Commune de 1871. Ici, une version plus jazzy, chantée par Charles Trenet.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres aux signaux, les merles au moqueur seront tous en fête.